Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin. Livre 2, chapitre 2. Marguerite sauve les évangéliques et le roi. 1525-1526. Persécution en France. Berquin prêche dans l'Artois. Opposition. Béda examine les livres de Berquin. Berquin emprisonné. Marguerite et le roi interviennent. Danger de Marguerite en Espagne. Faux serment du roi. Approbation du pape. En effet, François captif n'était pas la seule douleur de Marguerite. Si son frère était prisonnier de l'empereur, ses frères dans la foi étaient prisonniers de sa mère. Le Parlement de Paris avait rendu un arrêt contre les luthériens et le pape, ayant revêtu le 17 mars de l'autorité apostolique, les conseillers chargés de procéder contre eux, les persécuteurs se mirent à l'œuvre. La régente, Louise de Savoie, mère de François Ier et de Marguerite, demanda à la Sorbonne par quels moyens on pouvait extirper la doctrine damnée de Luther. Le fanatique Béda, syndic de la Sorbonne, enchanté d'une telle demande, répondit sans hésiter de la part de sa compagnie « Il faut la poursuivre avec la dernière rigueur ». Aussitôt, Louise fit publier des lettres patentes pour éteindre la damnée hérésie de Luther. La France se mit à chercher dans la persécution l'expiation des fautes qui avaient amené la défaite de Pavie. Plusieurs chrétiens évangéliques furent ou saisis ou chassés. Le valet de chambre de la duchesse d'Alençon, qui ne ménageait pas les prêtres et traduisait en vers les psaumes de David, Marot, le premier poète de l'époque, fut arrêté. Lefèvre, Roussel et autres durent s'enfuir. Caroli, Mazurier rétractèrent la foi qu'ils avaient professée. Hélas, disait-on, nul ne peut plus confesser Jésus sans exposer sa vie. C'est l'heure du triomphe, disaient fièrement Béda et les hommes du parti romain. Un coup plus sensible encore allait atteindre Marguerite. Un gentilhomme, ami d'Érasme, des lettres et surtout de l'écriture, qui avait ses entrées libres à la cour de la duchesse et avec lequel cette princesse aimait à s'entretenir de l'évangile et des temps nouveaux, Berquin, avait été arrêté pour cause d'hérésie, puis mis en liberté en 1523 par l'intercession de Marguerite et les ordres du roi. Quittant alors Paris, il s'était rendu dans l'Artois, sa patrie. Homme d'un cœur droit, d'une âme généreuse, d'un zèle intrépide, en qui l'on voyait dépeint le naturel d'un grand esprit, dit un chroniqueur, il représentait dignement par son caractère cette noblesse de la France et surtout de l'Artois, si distinguée en tout temps par son dévouement et sa valeur. Heureux de la liberté que Dieu lui avait rendue, Berquin avait juré de la lui consacrer et répandait avec zèle dans les chaumières qui l'entouraient la doctrine du salut par Christ seul. Le pays des anciens Atrébates, d'une admirable fertilité quant au grain de la terre, se montra aussi fertile quant à la semence du ciel. Berquin combattait le sacerdoce tel que Rome l'avait fait. Vous trouverez souvent dans la Sainte Écriture, disait-il, ces mots, mariage honorable, lit sans tache, mais de célibat, vous n'en trouverez pas une syllabe. Une autre fois, il disait, je n'ai pas encore connu un seul monastère qui ne fût infesté de haine et de débat. Ces paroles, répétées dans les réfectoires et les longs corridors des couvents, les remplissaient de colère contre le noble habit des lettres. Il ne s'arrêtait pas là. Il faut enseigner aux brebis du Seigneur, disait-il, à prier avec intelligence, en sorte qu'elles ne se contentent pas de barboter des lèvres comme des canards avec leur bec, sans rien comprendre à ce qu'elles disent. « Ils nous attaquent !» s'écrièrent les chapelains. Berquin ne s'abandonnait pourtant pas toujours à son humeur un peu caustique. Il était un pieux chrétien et désirait voir succéder au parti qui divisait l'Église romaine une sainte et vivante unité. On ne doit point, disait-il, ouïr entre chrétiens ces paroles « Je suis de la Sorbonne, je suis de Luther, ou je suis cordelier, je suis jacobin, je suis bernardin. Serait-ce trop que de dire « Je suis chrétien ». Jésus qui est venu pour nous tous ne doit pas être divisé par nous. » Mais ces paroles même excitaient encore plus la haine. Des prêtres et des nobles rigidement attaché aux anciens usages, s'élevait vivement contre lui. Il l'attaquait dans les paroisses, dans les châteaux. Il se rendait même vers lui et s'efforçait de le détacher de ses idées nouvelles qui les effrayaient. « Arrêtez !» lui disait-il avec une sincérité que l'on ne peut révoquer en doute. « Arrêtez, ou c'en est fait de la hiérarchie romaine !» Berquin souriait. Il modérait pourtant son langage. Il cherchait à faire comprendre que Dieu aime ceux qu'il appelle à croire en Jésus-Christ et s'appliquait à épandre la graine divine avec un infatigable courage. Il parcourut ainsi à pied, son testament à la main, les environs d'Abbeville, les rives de la Somme, les villes, les manoirs, les campagnes de l'Artois et de la Picardie, les remplissant de la parole de Dieu. C'était de l'évêque d'Amiens que ces contrées relevaient. Chaque jour, quelques nobles, quelques prêtres, quelques paysans même venaient rapporter à l'évêché tel acte ou telle parole évangélique du gentilhomme chrétien. L'évêque, ses vicaires, ses chanoines se consultaient. Tout à coup, l'évêque partit pour Paris, désireux de faire disparaître l'évangéliste qui jetait la perturbation dans tout le nord de la France. Il se rendit chez l'évêque, chez les principaux docteurs de la Sorbonne. Il leur raconta les efforts hérétiques du gentilhomme, l'irritation des prêtres et le scandale des fidèles. La Sorbonne s'assembla, se mit à l'œuvre, et ne pouvant prendre Berquin, elle saisit ses livres, elle les examina et en tira certains articles à la manière des araignées, dit Crespin, pour en faire du venin et procurer la mort d'un personnage qui, avec intégrité et rondeur d'esprit, tâchait d'avancer la doctrine de Dieu. Béda surtout, le fanatique Béda, se banda contre l'évangéliste. On voyait ce docteur, ombrageux, arbitraire, véritable inquisiteur et doué d'un talent remarquable pour découvrir dans un livre tout ce qui pouvait perdre un homme, moyennant certaines interprétations. On le voyait penché nuit et jour sur les livres de Berquin. Il y lisait « La Vierge Marie, à tort, est invoquée au lieu du Saint-Esprit ». Preuve acquise contre l'accusé, disait Béda. Il continuait. C'est sans raison qu'elle est appelée trésorière des grâces, notre espérance, notre vie, qualités qui appartiennent essentiellement à notre seul Sauveur. Confirmation. La foi seule justifie. Hérésie fatale. Les portes de l'enfer, le diable, ni le péché, ne peuvent rien contre qui a foi en Dieu. Quel orgueil ! Il fit son rapport. Certes, dirent ses collègues, il y a là de quoi brûler un homme. La mort de Berquin était décidée. La Sorbonne s'adressa au Parlement. Cela ne pouvait souffrir aucune difficulté. On mettait alors un homme à mort pour un passage malsonnant trouvé dans ses écrits. C'était la censure d'un siècle qui sortait de la barbarie du Moyen-Âge. De Mailly, huissier de la cour, partit pour Abbeville, pénétra dans les terres du gentilhomme et l'arrêta au nom de la loi. Ses vassaux qui lui étaient dévoués frémirent et se fussent levés pour le défendre, mais Berquin se croyait fort de son droit. Il se rappelait d'ailleurs ces paroles du Fils de Dieu « Si quelqu'un veut te contraindre d'aller avec lui une lieue, vas-en deux. » Il conjura ses amis de le laisser partir et fut amené à la prison de la Conciergerie où il entra, le regard ferme et la tête levée. Ces tristes nouvelles qui parvinrent en Espagne à la duchesse d'Alençon la touchèrent profondément. Et tandis qu'elle courait de Madrid à Tolède, à Alcala, à Guadalajara, sollicitant tout le monde, brassant le mariage de son frère avec la sœur de Charles Quint et préparant ainsi la réconciliation des deux potentats, elle résolut de sauver ses frères exilés ou emprisonnés pour l'Évangile. Elle s'adressa au roi en le prenant par son meilleur côté. François Ier, nous dit Brantôme, était appelé le père des lettres. Il avait recherché dans toute l'Europe des savants et créé à Fontainebleau une belle bibliothèque. « Quoi ?» lui dit sa sœur. « Vous fondez à Paris un collège destiné à recevoir les hommes éclairés des pays étrangers et dans cet instant même, d'illustres savants français, Lefèvre d'Étaples et d'autres doivent chercher un refuge hors du royaume. Vous voulez être le propagateur des Lumières et des hypocrites enfumés, blancs, noirs, gris, de toutes les couleurs, s'efforce de les étouffer parmi nous. » Marguerite ne se contentait pas d'aimer de paroles et de langues. Elle montrait son amour par ses œuvres. La pensée des pauvres exilés, qui avaient faim, qui n'avaient pas un lieu pour reposer la tête, la poursuivait dans les magnifiques palais de l'Espagne. Elle leur fit distribuer 4000 pièces d'or, dit l'un des ennemis de la Réformation. Elle fit plus. Elle entreprit de gagner son frère à l'Évangile et se mit, nous dit-elle, à ranimer le vrai feu dans son cœur. Mais hélas, le vrai feu n'avait jamais brûlé. François, pourtant touché de cette affection si vive et si pure, de ce dévouement si entier, qui eût été, s'il l'eût fallu, jusqu'au sacrifice de la vie, voulut donner à Marguerite une marque de sa reconnaissance. Il commanda au Parlement d'ajourner jusqu'à son retour les poursuites contre les hommes évangéliques. « J'entends, ajouta-t-il, donner aux gens de lettres des marques spéciales de ma faveur. » Ces paroles étonnèrent fort la Sorbonne, le Parlement, la ville et la cour. Chacun se regardait d'un air inquiet. On se disait que le chagrin avait altéré le jugement du roi. Aussi ne fit-on pas grande attention à sa lettre, et le 24 novembre 1525, 12 jours après la lettre du roi, ordre fut donné aux évêques de fournir l'argent nécessaire à la poursuite des hérétiques. Marguerite n'eut pas le temps de s'apitoyer davantage sur le sort de ses amis. Charles Quint, qui parlait avec admiration de cette princesse, pensait, non sans raison, qu'elle encourageait le roi à lui résister. Il se proposait en conséquence de la faire prisonnière dès que son sauf-conduit serait expiré. Il paraît que ce fut Montmorency qui, averti de cette intention de l'empereur par les agents secrets de la régente, en donna connaissance à la duchesse. Son œuvre en Espagne semblait finie. C'était de France maintenant qu'il fallait agir sur Charles. En effet, François, indigné des prétentions de ce prince, avait signé son abdication et l'avait remise à sa sœur. Le gouvernement français, tenant en main ce document, pouvait donner à ses instances une force toute nouvelle. Marguerite quitta Madrid et le 19 novembre 1525, elle était à Alcala. Mais en fuyant, elle regardait en arrière et se demandait sans cesse comment elle sauverait François du purgatoire de l'Espagne. Cependant, le sauf-conduit allait expirer. Le moment fatal était arrivé, les alguazils de Charles Quint n'étaient pas loin. Alors, montant à cheval à 6 heures du matin, la duchesse d'Alençon fit en un jour le chemin de quatre et rentra en France juste 1 heure avant la fin de la trêve. Tout changea à Madrid. Charles Quint, effrayé de l'abdication de François, adouci par le mariage prochain de ce monarque avec sa sœur, obtenant enfin l'essentiel de ses demandes, consentit à rendre la liberté au roi de France. C'était la Bourgogne qui avait retardé l'accord. Le roi n'était pas plus disposé que la duchesse à détacher de la France cette importante province. La seule différence entre le frère et la sœur était que la religion de l'une regardait les serments comme sacrés et que la religion de l'autre ne se souciait nullement de les enfreindre. François Ier le montra bientôt. Le 14 janvier 1526, quelques-uns de ses courtisans, officiers et domestiques se réunirent autour de leur maître pour un acte qu'ils appelaient sacré dans leur simplicité très grande. Le roi jura en leur présence qu'il ne tiendrait pas un seul des points que Charles Quint voulait lui imposer. Cela fait, François s'obligea 1 heure après, par serment, la main sur les écritures, à faire ce que Charles demandait. Selon la teneur du traité, il renonçait à toute prétention sur l'Italie, il rendait la Bourgogne à l'empereur, auquel, était-il dit, elle appartenait, il lui restituait la Provence que le prince cédait au connétable de Bourbon. La France était ainsi annulée. Le traité fut communiqué au pape. « Excellent, dit-il après l'avoir lu, pourvu que le roi ne l'observe pas. » C'était là un point sur lequel François et Clément étaient parfaitement d'accord. Marguerite n'avait pas trempé dans cette fourbe indigne. Elle n'avait pensé qu'à sauver le roi et les évangéliques.